Bonjour, je suis votre animateur Victor Perron et dans ce balado, je ne passerai pas du coq à l'âne, mais bien du loup-garou au diable. Vous écoutez Presque Vrai, un balado qui recense les légendes ayant effrayé et émerveillé les jeunes dans le temps. Aujourd'hui, nous partons à Montréal avec la légende de Fernand Morissette, le diable au bal. Nous commençons notre histoire avec Alex Provost et ses deux filles. L'une avait 24 ans et l'autre 21 ans. Comme on le voit, elles commençaient à vieillir et il était bien temps que leur père songea à leur trouver chacun un mari. Au dire des gens qui le connaissaient, Alex Provost était riche. Il avait fait sa fortune dans le commerce de bois. C'était un homme peu instruit, mais dont les capacités commerciales surprenaient bien des gens. Il avait commencé son commerce avec une petite somme d'argent et avait réussi à se créer une honnête aisance grâce à un travail constant et assidu. Il n'était pas aussi riche qu'on le disait cependant. Il avait un joli revenu de 2500 piastres par année. C'était plus que suffisant pour ses goûts modestes. Alex Provost avait épousé à l'âge de 20 ans une jeune fille de Montréal, Alice Boisvert. Madame Provost était une gentille personne, elle n'était âgée que de 18 ans lors de son mariage, elle avait été très bien élevée, elle avait reçu une bonne éducation, c'était une femme accomplie, ajouta cela une beauté assez rare et vous comprendrez facilement que le jeune Provost s'est pris d'elle et l'épousa. Alice Boisvert avait pourtant un défaut, un grand défaut même, elle était affreusement légère, de caractère. Dans ces années, plusieurs personnes pensaient que c'était un grand défaut pour les dames. Cependant, devenue femme, elle avait mis un frein à sa légèreté et son mari n'eut jamais à lui faire la moindre reproche. Au moment où on commence notre récit, Alex Provost est père de deux filles. La plus âgée se nomme Alice et la plus jeune Artemise. Ces deux jeunes filles ne se ressemblaient en aucune manière. L'aînée est blonde et la plus jeune est brune. Alice avait la gaieté folle de sa mère, Artemise était sage et réservée, comme son père. Elles s'aimaient toutes deux bien cordialement, jamais de disputes, jamais de chicanes. Disons de suite que le désir d'Alice était des ordres pour Artemise et que cette dernière obéissait aux moindres caprices de son aînée. Les deux filles étaient libres de leur action. La mère qui se rappelait de son jeune temps prétendait que la jeunesse doit s'amuser. Ses filles ne passaient pas un soir sans assister à une soirée quelconque. Madame Provost préparait elle-même leur toilette. Ce n'était pas elle qui avait les plus vilains costumes. Alex Provost demeurait à Montréal et il fréquentait la meilleure société. Les bals ne manquaient pas pour les deux jeunes filles, aussi que dans la grande société, il était de rigueur que chaque famille donne un bal dans le courant de l'hiver. Le père conduisait parfois Alice et Artemise à ses réunions. D'autres fois, c'était la mère qui les accompagnait. Non, on est en 1870. Bon, on va dire que c'est correct. Quelques années avant notre histoire, un grand personnage mystérieux est arrivé en ville. Et au moment de l'histoire, un bal était donné à son honneur. Un grand nombre d'invitations furent lancées, et comme Alex Provost occupait une certaine position dans la société montréalaise, il fut invité à assister à ce grand bal avec son épouse et ses deux filles. C'était une occasion favorable d'exhiber des filles à marier, et le père accepta l'invitation de grand cœur. Alice et Artemise ne rencontreraient-elles pas, dans cette réunion, des jeunes gens dignes de les épouser? Alice était dans la jubilation. Artemise, au contraire, se révoltait à l'idée d'assister à ce bal, surtout dans le costume exigé. Il était spécifié sur les invitations que les dames devaient porter des robes décolletées à manches courtes. Le grand personnage tenait, paraît-il, à inspecter les beaux coups et les jolies épaules des charmantes Canadiennes. On comprend ce que cette obligation de décolletage avait d'insultant pour nos chères Canadiennes et Québécoises. Toute femme qui a un reste de pudeur devait se sentir humiliée d'un semblable affront. La presse de Montréal, du moins la presse canadienne, fut presque unanime à condamner la conduite de celui qui avait dicté la toilette des dames. Il y eut une désapprobation presque générale de la part des dames canadiennes et québécoises. Je dis presque, car malheureusement, il y en eut quelques-unes qui eurent le courage d'aller exhiber leur peau devant le grand personnage en question. Au nombre de ces dernières se trouvaient Madame Provost et ses deux filles. Les habits des jeunes filles étaient indécents au suprême degré. Celui d'Alice surtout était tellement décolleté. Malheureusement, il était trop tard pour le changer et elle se rendit au bal dans cet accoutrement. Il y avait déjà un grand nombre d'invités d'arriver lorsque la famille Provost fit son apparition dans la salle du bal. C'était en partie des Anglais et des Anglaises, des Écossais et des Écossaises, quelques Canadiens et Canadiennes et quelques Québécois et Québécoises. Le bal commença. Polka. Valse. Les danses se succédaient avec un entrain diabolique. Alice faisait partie de toutes les danses. Ce qu'elle préférait surtout, c'était la valse. Elle valsait à ravir. La valse, N'est-ce pas là la danse que les jeunes gens aiment le mieux? Est-ce parce qu'elle est plus jolie que les autres? Ou bien est-ce parce qu'elle est condamnée et défendue par l'Église? Impossible de trouver une bonne réponse. Vers 11h, le grand personnage faisait son apparition dans la salle du bal. C'était un grand jeune homme aux cheveux noirs et bouclés, aux yeux d'un noir vif et à l'air noble. Un quart d'heure après son entrée, il se trouvait auprès d'Alice Provost et engagea la conversation avec elle, au plus grand désappointement des autres jeunes filles. Il parlait admirablement bien le français. Sa voix était douce et mielleuse. Il se mit à débiter compliment sur compliment à la jeune fille qui rougissait de plaisir et d'orgueil. Le jeune homme continua et lui fit une déclaration d'amour des plus enthousiastes.
« Au milieu de toutes les jolies filles présentes à mon bal, je vous ai remarqué. Vous êtes sortie du lot. Mon cœur a battu avec précipitation en vous voyant passer près de moi dans la dernière danse. Vous êtes si belle et si joyeuse. J'ai compris que je vous aimais et que mon plus grand bonheur serait de voir mon amour partagé. »
Alice connaissait-elle ce jeune homme?
Mais à quoi m'est-il utile de le connaître?
Il lui avait dit se nommer.
Frank McArthur, et je suis officier dans l'armée anglaise.
Or, comme Alice était du nombre des Québécoises qui se croyaient beaucoup plus élevées que leurs compagnes lorsqu'elles sont courtisées par des jeunes gens de la race supérieure, elle ne put s'empêcher de dire au jeune officier anglais qu'elle était charmée de son amour et qu'elle avait tout lieu de croire que cet amour serait partagé. Le jeune homme présenta alors à Alice un magnifique collier en or, premier gage de son amour. Il lui demanda de le porter immédiatement. Alice accepta le cadeau et le mit sur le champ, dans son cou. Quelques instants plus tard, on les voyait valser tous les deux. Le jeune McArthur était un fameux danseur. Alice n'en avait jamais rencontré d'aussi capable. Aussi était-elle fière de se faire considérer par un si noble cavalier. Elle riait, des yeux que lui faisaient les jeunes Anglaises, jalouses de son succès. Elle valsait, valsait toujours. Le collier qu'Alice venait de recevoir devait être en or massif, car il était bien lourd, trop lourd même, pensait-elle. Il lui semblait que ce collier entrait dans sa chair. Elle s'imaginait qu'il était de feu, car il lui brûlait la peau. Il était lourd, très lourd, extraordinairement lourd. Après la valse, se sentant indisposée, Alice alla voir sa mère.
« Mère, puis-je retourner à la maison? Je me sens si faible après cette formidable soirée. »
La mère acquiesça. Alice fut prête avant ses parents et partit de suite, accompagnée du jeune homme. Alex Provost et son épouse parlent en se rendant à leur demeure du magnifique résultat qu'avait eu pour Alice ce fameux bal. Ils grondèrent même Artémise, qui les accompagnait seule parce qu'elle n'avait pas su s'attirer les avances de quelques-uns des jeunes gens qui se trouvaient à cette réunion. Cette pauvre Artémise avait passé la soirée dans un coin, seule, regardant les nombreux danseurs et danseuses passer devant elle. Elle avait honte du costume qu'elle portait et n'osait bouger de crainte d'attirer leur regard effronté des jeunes gens. Elle songea au mal qu'elle occasionnerait si on la voyait. Elle demanda à Dieu d'éloigner d'elle toute occasion qui la mettait en évidence. À part la honte que lui faisait éprouver son costume décolleté, Artémise se sentait le cœur triste. Artémise, en marchant, pensait au malheur qui pesait sur sa famille.
Dieu ne peut laisser impuni tant de péchés et ce sera sur nous, catholiques, que retombera sa colère.
Lorsque sa mère lui reprocha d'avoir manqué une magnifique occasion de se trouver un mari, Artémise lui répondit simplement
« Attendez !»
La manière dont il fut dit, plutôt que le mot en lui-même, impressionna vivement M. et Mme Provost. Sans trop savoir pourquoi, ils attirent le pas. Comme ils demeuraient à peu de distance de l'hôtel dans lequel s'était donné le bal en question, ils arrivèrent bientôt à leur résidence. En entrant dans la maison, un spectacle affreux, inouï se présenta à leur vue. Alice était étendue morte sur le plancher, les yeux presque sortis de leur orbite, les cheveux droits sur la tête, la figure, les mains, le corps, tout entier était complètement noir, comme s'il eût été carbonisé. Le collier qu'elle avait sur la poitrine est entré dans sa chair. Ce n'était pas de l'or, mais du fer rougi. La maison tout entière était remplie d'une odeur de chair grillée. Chose épouvantable, le jeune homme qui avait fait sa cour à Alice était Satan, le roi des enfers en personne. La jeune fille s'était donnée à lui. Il l'avait emporté son âme et avait laissé son corps dans l'état pitoyable dans lequel on le retrouvait. En voyant son enfant dans un état aussi affreux, Alex Provost fut frappé d'apoplexie et mourut quelques jours plus tard. Madame Provost, atteinte d'aliénation mentale, voit à tout moment sa fille qui l'accuse d'être la cause de sa mort. Quant à Artémise, elle prend soin de la pauvre folle et se dispose à entrer dans un monastère pour se faire religieuse dès que Dieu aura mis fin aux souffrances de sa mère. Autant inattendu que cela puisse paraître, le diable était bel et bien au bal. Vous avez écouté Presque Vrai? C'était une version actuelle de l'histoire de Ferdinand Morissette. À la narration et au montage, c'était moi, votre animateur, Victor Perron. Pour la voix d'Alice, merci à...
Juliette.
Pour la voix d'Artémise, merci à...
Nadia.
Et pour la voix de Satan, le roi des enfers, merci à...
Antoine.
Mais surtout, merci d'avoir écouté mon premier balado et ne ratez pas le prochain épisode.